Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir cette virulente tribune signée par 300 personnalités, dont un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, deux anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Manuel Valls, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Ce texte s'élève, je cite, « contre un nouvel antisémitisme marqué par la radicalisation islamiste. Il dénonce un silence médiatique, une épuration ethnique à bas bruit dans certains quartiers. Il appelle à expurger certains passages du Coran ». Les mots sont forts, ils ont choqué de nombreux responsables musulmans. Procès délirant, injuste, non-sens, aberration, exagération. L'islam et les musulmans de France, nouveau bouc émissaire. Voilà ce que disent ces responsables musulmans. Dans une tribune publiée cet après-midi dans le quotidien Le Monde, 30 imams appellent à combattre la radicalisation, mais rejettent toute incrimination du Coran. Alors on ouvre le débat ce soir avec vos questions, vos réactions, vos témoignages. Un numéro de téléphone, 01 45 24 7000.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Premier appel, Patrice est avec nous. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien voilà, je voudrais savoir si les tenants du manifeste antisémite ne devraient pas un peu tenir un discours un peu plus précautionneux au risque d'amalgamer des opinions antisionistes avec de l'antisémitisme. Je me souviens d'un jeu dangereux de certains hommes politiques, notamment de Manuel Valls, je crois, qui disait qu'il mettait dans le même panier les antisémites et les antisionistes, qui est complètement faux et d'une malhonnêteté intellectuelle. On a l'impression malsaine maintenant que dénoncer les agissements odieux d'Israël et donc d'une partie de certains... les juifs devient un tabou et ça relève vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Et je crois qu'il ne faut pas tomber non plus dans un manichéisme béat stupide. Si vraiment l'islam, comme j'ai entendu dire, et comme le christianisme contiennent des propos manifestement antisémites, eh bien une fois pour toutes, ces propos devaient être dénoncés, définitivement. Et puis je pense aussi que ce manifeste sert quand même sournoisement les intérêts de certains racistes anti-musulmans. Quand on écoute la parole populaire, on entend bien plus souvent « sale bonioul, sale bico » que « sale juif hein, », ça je peux vous le dire. Et bizarrement, on n'entend aucun manifeste pour cela. Et puis aussi, il y a un amalgame qui est fait avec une certaine gauche, avec le FN, sans que celui-ci soit nommé. On connaît des propos haineux de certains moments du FN, mais beaucoup plus rarement de l'extrême gauche. Je voudrais en connaître.
Voilà. Patrice, on va répondre à ce premier constat que vous réalisez sur l'antenne. Pour vous répondre, dans ce studio, à mes côtés, Annette Viaviorca, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste de la Shoah. Vous avez publié aux éditions du Seuil, 1945, La Découverte, et vous avez signé ce manifeste contre le nouvel antisémitisme. Et puis dans ce studio, Anouar Bibesh, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vice-président du Conseil français du culte musulman. Annette Viaviorca, que pensez-vous de ce constat que vient de faire Patrice ?
Écoutez, je trouve ça stupéfiant. Le manifeste porte sur le nouvel antisémitisme, donc c'est ça le sujet. Et le premier correspondant qui ouvre sur la question d'Israël et sur l'antisionisme. Donc je me dis qu'il y a vraiment une obsession d'Israël qui ne correspond pas à la teneur du débat que nous devrions avoir aujourd'hui. Donc je souhaiterais quand même qu'on recentre le débat autour du contenu de ce manifeste et des effets qu'il a, parce que vous venez de le dire, il y a ce texte important des 30 imams, il y a aussi un autre grand article dans Le Monde qui porte sur l'antisémitisme musulman. Donc la première question que je poserai, c'est est-ce qu'il y a un antisémitisme musulman ? Parce que c'est ça la question qui est posée par ce manifeste. Pour moi, la réponse est de l'ordre de l'évidence, oui. C'est pas l'antisémitisme de tous les musulmans, mais il y a un antisémitisme particulier. Et la deuxième question à discuter, je pense que votre présence, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces assassinats, parce que tous les assassinats qui ont eu lieu ces dernières années l'ont été au nom d'un certain islam, est-ce qu'il y a un lien entre ces assassinats et l'islam lui-même ?
Anouar Bibesh, vous répondez ?
Ce qui est stupéfiant, c'est surtout cet amalgame manifeste que fait ce manifeste, justement, entre l'antisémitisme et l'islam et les musulmans. Puisqu'on ne prend plus de précautions d'usage qu'on avait avant, on parlait d'islamisme, de radicalisme, de terrorisme. Là, on parle crûment d'antisémitisme musulman. C'est-à-dire que le musulman, il est potentiellement antisémite, jusqu'à preuve du contraire. Et ceci est insupportable, cet amalgame est insupportable. Il y a des actes antisémites. Ils sont le nombre d'actes antisémites est en réduction depuis 3 ans. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur en nombre. Mais effectivement, il y a une augmentation du nombre d'actes antisémites violents. Et effectivement, le dernier en date, cet assassinat abject de la malheureuse Mireille Knoll, nous a tous bouleversés. Il faut dénoncer cet antisémitisme, il faut le combattre, mais de là à faire un lien entre islam musulman et cet antisémitisme, ceci est pour nous inacceptable. Et je pense qu'il y a là, ce manifeste représente une erreur grave. Parce que je pense que tous ensemble, on est concerné par la montée du racisme et de l'antisémitisme et la nécessité de se mobiliser tous, pour le combattre. Et donc les musulmans de France, il faut les considérer comme des alliés dans ce combat contre l'antisémitisme et pas comme des ennemis. Or aujourd'hui, ce manifeste pointe les musulmans comme des boucs émissaires. Et je l'ai dit à plusieurs reprises depuis la publication de ce manifeste dimanche dernier, il sera contre-productif. Et j'ai des appels des mosquées, des régions, des fidèles de base qui considèrent que ce manifeste est une attaque, une provocation vis-à-vis des musulmans de France.
Alors, au début de cette émission, on a évoqué le conflit israélo-palestinien qui serait à l'origine de nombreux actes antisémites, c'est-à-dire que ça motiverait certains. Et on a des réactions d'auditeurs, par exemple, ce texte que j'ai reçu. Comment expliquer à des esprits incultes que les juifs français ne sont pas responsables du conflit israélo-palestinien, qu'eux aussi, des juifs français, critiquent le gouvernement Netanyahou, comme le fait en Israël la presse israélienne, implacable très souvent pour dénoncer les dérives du gouvernement Netanyahou, nationaliste et religieux.
J'avoue que je suis très étonné par le tour que prend ce débat. Nous ne sommes pas en Israël, nous sommes en France. Nous n'avons sur la politique israélienne qu'une possibilité d'agir très très à la marge. Il y a en Israël, qui est, rappelons-le quand même, une démocratie, un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord avec la politique, un certain nombre de mouvements. Et nous sommes là pour discuter quand même de ce qui se passe en France pour les Juifs. En France.
Mais vous savez très bien que certains musulmans en France, certains se sentent solidaires des Palestiniens et
ça peut les motiver à commettre des actes antisémites,
ce qui est inacceptable.
Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit sur la question des actes antisémites. Ils sont en diminution, vous l'avez dit, mais cette diminution, elle ne porte pas sur les actes meurtriers, que je vais appeler barbares, c'est-à-dire ces actes qui provoquent une horreur propre, vous l'avez dit. On a tué en France, au nom de l'islam, vous me dites que c'est pas l'islam, mais on a quand même tué des enfants, quasiment des bébés, à Toulouse. C'était Mohamed Merah. Et une vieille femme. Et je dois avouer que c'est. Je dois avouer que, pour moi, ce qui m'a fait signer, c'est vraiment l'assassinat de Mireille Knoll, qui habite le même quartier que ma mère, qui est très âgée. Donc, quand on regarde, Hyper Kacher, Mohamed Merah, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a cet antisémitisme meurtrier, c'est-à-dire on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, je n'ai pas dit que c'est l'islam, j'ai lu attentivement l'article, le manifeste des imams, et ils expliquent très très bien qu'il y a une jeunesse ignarde qui croit que c'est ça l'islam, et j'entends tout à fait cela, mais C'est quand même une réalité.
Alors, imams, je les cite, ils déplorent de voir l'islam. Ils déplorent de voir l'islam tomber dans les mains d'une jeunesse ignorante, perturbée et désœuvrée, emmenée par des théoriciens d'une géopolitique du chaos.
C'est magnifique. Je trouve que c'est une quelque chose qui est courageux et qui donne à réfléchir.
Alors, Marc Guibèche, est-ce que cet article, ce manifeste publié aujourd'hui par ces imams dans Le Monde, est-ce que ça ne vient pas un peu tard? Il a fallu qu'il y ait ce manifeste dans Le Parisien pour dénoncer les actes antisémites commis par des extrémistes islamistes, des fanatiques, et il a fallu qu'enfin arrive ce texte. Est-ce qu'il n'aurait pas dû arriver plus tôt?
Mais j'ai toujours dit qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Les musulmans de France se sont exprimés depuis des années. En 2004, nous avons publié au Conseil français du culte musulman ce que nous avons appelé la Convention citoyenne des musulmans de France. Et dans cette Convention citoyenne qui date de mai 2014, donc il y a maintenant 4 ans avant ce manifeste qui vient d'être publié dimanche dernier. Et dans cette Convention citoyenne des musulmans de France, il y a un article spécifique sur le rejet de l'antisémitisme et sur la mobilisation des musulmans de France, et notamment vis-à-vis des jeunes, pour les immuniser et pour éviter ces dérives de préjugés antisémites, etc. Ça, c'était en mai 2014. Quand il y a eu les attentats du Bataclan, donc en novembre 2015, le Conseil français du culte musulman a publié un prêche du vendredi qu'il a généralisé aux 2500 mosquées de France, dans lequel on dénonce clairement tous les actes de violence, de terrorisme, de racisme, d'antisémitisme. Et nous avons mis Daesh à nu par rapport à toute l'instrumentalisation d'un certain nombre de versets du Coran qui étaient sortis de leur contexte. Et 10 jours après, le 29 novembre 2015, nous avons organisé un grand rassemblement citoyen des musulmans de France à l'Institut du monde arabe avec 400 responsables, et nous avons proclamé un manifeste, là aussi, que je vous invite à lire, et sur lesquels on appelle notre jeunesse, justement comme le font les 30 imams aujourd'hui, à ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu par les groupes terroristes et les groupes extrémistes. Nous n'avons pas attendu ce manifeste pour réagir.
Annette Vieworka, vous répondez, puis après on ira au standard, il y a des appels.
Écoutez, c'est très bien, mais on ne voit pas non plus les effets... Les effets de toutes ces interventions, puisque les assassinats ont continué et que l'antisémitisme... Ce sont des préjugés.
L'assassinat fait par Mohamed Merah, auquel vous avez fait allusion, il a commencé par abattre un militaire musulman.
Je sais.
Sa mère, la pauvre Latifa Ben Ziyaten, n'arrête pas de faire le tour des écoles, des prisons pour parler aux jeunes. Donc les musulmans sont aussi touchés par ce terrorisme.
Mais j'en suis persuadé.
On va au standard.
C'est-à-dire qu'il y a ici un certain nombre d'Algériens qui ont fui l'Algérie. Au moment du terrorisme musulman, islamiste, dans leur propre pays. Je voudrais quand même dire juste quelque chose. Quand j'étais plus jeune, on ne parlait pas de musulmans. Il y avait les Arabes. Moi, j'habite tout près de Barbès, donc tout près de la Goutte d'Or. Et à la Goutte d'Or, il y a ce qu'on appelle les vieux Algériens, qui sont installés depuis très longtemps. Et effectivement, au moment de la guerre d'Algérie, il y a eu un certain nombre d'exactions. Et puis, brusquement, on a vu arriver cette appellation unique de musulmans, alors que musulman, c'est une religion. En dernière analyse, c'est un choix.
Qui parle de l'antisémitisme musulman.
Voilà, c'est un choix. Et je crois que le mettre sur le même plan l'antisémitisme, qui désigne des juifs qui sont ou non religieux, il y a des religieux, mais je ne sais pas si Mireille Knoll allait à la synagogue régulièrement, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan antisémitisme et anti-islamisme.
Au standard, Jacques est avec nous. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir à tous. J'écoute avec attention vos intervenants. Effectivement, la plupart des musulmans sont respectueux des lois de la République, ça s'est entendu. Votre interlocuteur a souligné que les musulmans étaient des alliés, mais moi je rajouterais un peu, pas provocation, mais il ne faut pas qu'ils soient des aliénés non plus des religions. Les fondamentaux de notre vivre ensemble, c'est bien évidemment la laïcité. Ce n'est pas qu'en matière d'antisémitisme que quelque part nous sommes en droit de nous interroger sur le statut abus des homosexuels. Je ne veux pas citer toutes les sourates un peu problématiques, mais est-ce qu'il ne serait pas, à un moment donné, comme toutes les religions qui ont fait un peu leur Vatican II, est-ce que les musulmans de France, qui se dissocient effectivement avec de cette violence qui s'exerce, ne pourraient pas se dire on va se regrouper et on va réfléchir ensemble pour enlever ces textes qui peuvent être problématiques et puis qui peuvent prêter à confusion et surtout donner du grain à moudre aux gens qui sont susceptibles de passer à l'acte et à la violence.
Anouar Pibèche, je rappelle, vice-président du Conseil français du culte musulman.
Votre interlocuteur ou auditeur parle de la laïcité, enfin, à ce que je sache. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la liberté de conscience. Et pour ceux qui croient, donc qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans ou autres, c'est la liberté de vivre leur religion, dans le respect des valeurs de la République et des conditions du vivre ensemble. Donc, les musulmans de France sont des citoyens à part entière. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs concitoyens. Ils ont le droit de vivre pleinement leur religion dans le respect du cadre laïque.
Jacques posait aussi la question, est-ce qu'on peut, comme le demande le manifeste publié dimanche dernier dans Le Parisien, frapper d'obsolescence les versets du Coran qui appellent
j'allais y arriver.
À l'agression, au meurtre, au châtiment des juifs, des chrétiens, des incroyants.
Tout à fait. Déjà, je mets au défi les signataires de ce manifeste de nous dire de quel verset il s'agit. Moi, j'ai lu le Coran une fois. Je ne trouve pas de verset qui dit qu'il faut qui appelle au meurtre des juifs et des chrétiens. D'où sert cette histoire-là? Moi, le seul verset que je connaisse du Coran qui dit en arabe rapidement wala tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan, c'est-à-dire ne dialoguer avec les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, que de la meilleure façon possible, avec courtoisie et en choisissant les meilleurs mots dans le dialogue. Le comportement, c'est bien sûr encore plus contraignant. Donc, il y a un respect profond des différents monothéistes, et notamment des juifs et des chrétiens.
Mais là, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, Alma.
Mais je mets au défi.
Certains experts du Coran disent qu'il y a des appels à la violence dans le Coran, mais qu'il faut replacer cela dans le contexte de l'époque.
Il y a un certain nombre de versets, juste pour terminer, parce que c'est un point important, il y a un certain nombre de versets qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes, qui sont sortis de leur contexte, qui sont sortis des conditions dans lesquelles ils ont été révélés, et qui sont instrumentalisés. Et ce travail de réexplication et de pédagogie et d'interprétation de ces versets, les musulmans de France et le CFCM a mis en place notamment un conseil théologique avec des savants et des imams musulmans de France qui travaillent sur ce qu'on appelle le contre-discours pour remettre ces versets dans leur contexte et donner leur vraie signification.
Moi, je suis très très ignorante en matière de Coran, donc je ne vais pas aller discuter de la question du Coran. Mais j'aimerais quand même revenir avec
Vous avez signé quand même un manifeste dans lequel on appelle à abroger des versets.
On signe un manifeste qui est très long, et si vous interrogiez les uns et les autres, on signe globalement. Et pour moi, le grand mérite de ce manifeste, c'est d'avoir attiré l'attention sur cet antisémitisme nouveau c'est pour ça que je l'ai signé, pour ça. Sur chaque point du manifeste, c'est vrai qu'on pourrait discuter. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que dit votre auditeur. D'abord, je crois pas que Vatican II ait consacré la moindre ouverture sur la question des homosexuels. Donc, l'Église catholique et les homosexuels, on pourrait aussi en discuter, en débattre. Mais je voudrais quand même rappeler qu'est-ce qui s'est passé avec Vatican II, avec Nostra Aetate, qui concernait d'ailleurs pas simplement le judaïsme, mais qui concernait aussi l'islam, d'autres religions. C'est venu d'un mouvement après la Shoah, initié par notamment un historien, Jules Isaac, qui a écrit deux volumes, L'enseignement du mépris et Jésus et Israël. Et ce mouvement, c'était de dire qu'il y avait eu dans l'antisémitisme qui a abouti à la destruction des Juifs d'Europe, des composantes qui venaient du christianisme. Et c'était un appel à modifier, à en finir avec ce temps du mépris et à modifier la catéchèse. Donc, je sais très bien que l'islam,
il n'y a pas de pape.
Voilà. Alors, je sais très bien que l'islam ne fonctionne pas de la même façon.
Le culte musulman.
Voilà. Ouais. Je sais bien que ça ne représente pas la même chose, mais je pense que ce mouvement qui est de regarder dans la religion ce qui peut être porteur de meurtre ou d'antisémitisme ou de... Je pense que c'est quand même un bon mouvement et je pense que les musulmans doivent avoir l'imagination de trouver leur voie propre. Comme Vatican II.
On va aller au standard. Motti nous appelle. Bonsoir Motti.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, je voulais saluer d'abord les participants à l'émission et je voulais juste dire que moi j'appelle de Jérusalem. J'ai fait ma Aliya en Israël il y a 5 ans. Je vous explique en deux mots. J'avais un fils qui était à Haute-Sara Torah à Créteil, une école juive, et un autre qui était à l'Orte de Villiers-le-Bel. Le premier m'a demandé, m'a supplié de quitter l'école parce que il y a eu des cocktails Molotov qui ont été jetés sur cette école et c'était pas des jeunes catholiques qui allaient à l'église tous les dimanches qui ont fait ça. Lors de Villiers-le-Bel, les cartes de ramassage scolaire étaient caillassées sur les routes. Mes enfants, au départ, étaient dans des écoles d'État, des écoles, des écoles classiques qui n'étaient pas des écoles de juives, et ils ont petit à petit été éjectés de ces écoles-là. Aujourd'hui, toute notre famille se retrouve ici à Jérusalem. On est bien content d'y être, mais je veux dire, on n'était pas obligé de venir tout de suite. On a l'impression qu'on a été chassés de la France. Nous, on aime la France, on a toujours aimé la France, on a servi la France et on la sert toujours et on l'aime toujours. Mais je comprends pas comment on a laissé faire une communauté. Je peux vous dire que ici, à Jérusalem, aussi bien qu'à Tel Aviv, on voit tous les jours arriver des familles en catastrophe, qui ont été victimes d'actes antisémites. Je ne parle pas, moi, des deux cas de Mme Knoll et Mme Alibi. Je parle de tous ceux que je vois qui sont victimes de petits actes antisémites.
Motti, vous m'entendez? Qui était responsable des actes dont vos enfants ont été victimes, des actes antisémites?
Alors écoutez, moi je n'utilise pas la langue de bois, j'ai appris à parler franc en Israël, parce qu'ici en Israël on parle vraiment franc. Je vous dis honnêtement, ce ne sont que des musulmans, je regrette. Le monsieur du CFCM, tout ce qu'il dit, il a raison. Il y a effectivement l'islam qui va bien en France. Mais le problème, c'est qu'on ne parle que de gens qui sont d'accord avec la laïcité, de gens qui sont contre les sourates les plus extrémistes, etc. Mais c'est pas de ces gens-là dont on parle. C'est monsieur du CFCM, il n'a rien à faire à l'émission. Nous, ce qu'on veut entendre, c'est les musulmans qui, pratiquent l'antisémitisme, les musulmans qui, cassent les pieds aux juifs, qui chassent les juifs de France. Il y a aujourd'hui une alia intérieure en France. Les 50 000 juifs de la région parisienne ont déménagé, obligés de déménager de l'endroit où ils étaient pour aller dans les quartiers plus calmes. Aujourd'hui, il y a des files de province. Je ne peux pas citer la file, mais je peux vous dire que c'est un cas qui date de ce matin. Il y a une file de province qui fait appel à l'ensemble des juifs qui ont du mal à se déplacer, qui n'ont pas les moyens financiers pour aller ailleurs. Elle leur propose du travail, elle leur propose de s'installer dans la ville pour pouvoir s'éloigner des quartiers difficiles, dangereux.
Motti, merci d'avoir témoigné en direct de Jérusalem. Ce témoignage, Anouar Bibesh, votre réaction?
Ce monsieur est originaire de Créteil, d'après ce que j'ai compris. Enfin, moi, j'ai été souvent à Créteil pour participer à des tables rondes avec un dialogue interreligieux avec des chrétiens, des juifs et des musulmans. Je connais très bien les communautés juives de Créteil et du 94. Il faut être clair là-dessus. Enfin, on n'est pas dans le déni. Il y a un certain nombre d'actes anti-musulmans, anti-musulmans bien sûr, mais surtout des actes antisémites,
oui,
qui sont malheureusement commis par des jeunes qui portent un certain nombre de préjugés. Il faut combattre ces préjugés, il faut éduquer. Parce que justement, souvent, les parents ont démissionné vis-à-vis de ces jeunes. L'école a démissionné également parce que ces jeunes, ils sont passés par les bancs de l'école de la République. Il faut voir les différentes, je dirais, les différentes responsabilités dans cette situation-là. Je ne pense pas que ces jeunes ont lu le Coran pour aller commettre ces actes antisémites. C'est ça que je veux dire. Mais on nie pas ces actes antisémites.
Mais ils commettent ces actes antisémites?
Justement, c'est ce que disait le manifeste là des 30 imams. Il y a une certaine ignorance. C'est par ignorance du Coran, c'est par ignorance de la religion musulmane que ces jeunes, malheureusement, font un amalgame par rapport à ces préjugés-là vis-à-vis des juifs, par rapport à ce qui se passe.
Quel préjugé ?
Le fait que, quand on dit, justement, Mireille Knoll Moi, j'étais à la Marche Blanche. J'étais en première ligne avec les représentants des institutions juives. Et dans le circuit, on est passé par là où habitait la malheureuse Mireille Knoll, qui était dans un bâtiment tout à fait modeste. Il paraît qu'elle avait pas plus que 800 euros de revenus par mois. Et il y a ces préjugés-là que les juifs sont riches, etc. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement dans la jeunesse qui se réclame de culture ou de confession musulmane. Il y a l'extrême droite qui il y a une certaine frange de catholiques aussi qui véhicule ces préjugés. Donc il faut traiter la problématique dans son ensemble. Je donnerai juste un exemple. Oui. Aujourd'hui, on parle effectivement des actes antisémites. Il faut savoir, par exemple, qu'en Corse, il y a des familles entières musulmanes qui ont dû quitter la Corse, qui vient s'installer en Île-de-France. Elles ont pris contact avec le Conseil français du culte musulman parce que justement, elles sont attaquées par des tirs à balles réelles et par des grenades qui sont lancées vis-à-vis des mosquées. On n'a pas parlé de purification ethnique en Corse, à ce que je sache. Donc, il faut remettre les choses en leur place. Il y a un problème, il faut qu'on le traite ensemble, main dans la main, chrétiens, juifs, musulmans, croyants, non-croyants, et ne pas, essayer de tomber dans le piège qui nous est tendu de monter les communautés les unes contre les autres. Et quand je vois le manifeste qui parle de vote juif, j'étais sidéré de voir des personnalités aussi illustres signataires de ce manifeste parler de vote juif et de vote musulman. Ça, c'est le communautarisme. Je ne sais pas si le vote juif existe. En tout cas, le vote musulman n'existe pas. Il y a des citoyens français, ils sont de confession musulmane ou pas, et les musulmans sont dans tous les partis. Ils sont même au Front National.
Je reviens sur cette tribune publiée par ces 30 imams qui appellent à combattre la radicalisation dans les colonnes du Monde cet après-midi. Ils se disent indignés. Nous le sommes en tant que Français touchés par ce terrorisme ignoble qui nous menace tous. Je les cite encore. Nous le sommes aussi en tant que musulmans, comme le reste de nos coreligionnaires, musulmans paisibles, qui souffrent de la confiscation de leur religion par des criminels. Mais ces imams écrivent aussi qu'ils veulent s'impliquer davantage dans le combat républicain contre des actes antisémites. Oui. Donc ils reconnaissent que peut-être vous n'en faites pas suffisamment.
Mais bien sûr, personne n'est dans le déni. Mais on n'en fait jamais assez pour combattre l'antisémitisme. Il faut effectivement redoubler d'efforts, mais il ne faut pas essayer de monter les uns contre les autres et faire de la statistique basse en disant, en comparant les actes antisémites et les actes anti-musulmans, en comparant le niveau de risque que prennent les uns et les autres.
Je n'irai pas dans ce genre de comptabilité. Je remarque toutefois que j'ignorais ce qui se passait en Corse, mais je remarque toutefois que depuis 10 ans, 15 ans, les meurtres n'ont visé que des juifs. C'est-à-dire que les victimes... Vous avez donné un exemple, un militaire musulman. Mais c'est dans une série qui aboutissait à assassiner des enfants juifs. On n'a pas égorgé un imam dans une mosquée comme on a égorgé le père Hamel. On n'a pas tué des enfants dans je ne sais quelle école ou jardin d'enfants musulmans. Il y a quand même quelque chose. On ne peut pas mettre sur le même plan tout. Alors, sur la question des préjugés, ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que la stéréotypie de l'antisémitisme, elle est constante.
Tout à fait.
On retrouve toujours les mêmes thèmes, les juifs et l'argent, le complot, le mondialisme, on retrouve les mêmes thèmes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier l'antisémitisme de la droite. Mais ces thèmes, ils sont transportés différemment et ils ont des effets différents suivant les périodes et suivant les modalités dans lesquelles ils sont mis en œuvre.
Au standard, Elisabeth est avec nous, elle est en Loire-Atlantique, si je lis bien mon ordinateur. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est à vous, Elisabeth.
Oui, bonsoir. C'est plus un témoignage que je voulais donner.
Allez-y.
Voilà, moi j'étais en 1997 professeur dans un lycée professionnel à Vincennes. Et j'entendais les élèves parler de juifs tout le temps, de façon... tout à fait désagréable. Et donc, je leur ai posé la question. On est rentré en classe et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les juifs? Et ils m'ont répondu, madame, tous les juifs sont riches. Alors, je leur ai expliqué que c'était pas vrai. J'ai pris un exemple. Il y avait un élève dans la classe qui avait pas l'air riche et qu'il m'a dit qu'effectivement, qu'il était juif et pas riche. Enfin, bref, j'ai pas réussi à les convaincre. Mais pas du tout, hein. Et sur ce, ils sont allés voir le proviseur et pour leur dire que je n'étais pas apte à faire mes cours, que je n'étais pas compétente parce que je disais trop de contre-vérités. Voilà. Alors, merci. On savait que le professeur, je savais que le proviseur était juif parce qu'on lui avait demandé de ne pas porter la kippa dans le lycée le vendredi. Alors, ces élèves n'étaient pas du tout d'origine d'Afrique du Nord. Hein. Et donc, c'était déjà en 1997 et il ne s'est rien passé. J'ai été très choquée que le proviseur ne vienne pas dans ma classe rétablir mon autorité.
Merci Elisabeth d'avoir témoigné ces paroles épouvantables d'élèves en classe. Souvent d'ailleurs, ils répètent ce que disent les parents.
Moi j'ai été longtemps professeur de lycée, bon ça fait maintenant un certain temps. Mais ce que je constate, comme le témoignage d'Elisabeth, c'est que très souvent la hiérarchie est, je pèse mes mots, un peu lâche. C'est-à-dire que au lieu de soutenir des enseignants dans ce type de difficultés, elle préfère faire semblant de ne rien voir. Et là, c'est un vrai, vrai problème dans l'éducation nationale.
C'est pour
nationale.
Ça que tout à l'heure, j'ai parlé des différentes démissions. La démission des parents, la démission des écoles et des lycées. Enfin, il y a un certain nombre de responsabilités dans la situation actuelle et il faut que chacun prenne ses responsabilités.
Les témoignages quand un enfant juif est victime de harcèlement dans une école, au lieu d'essayer de combattre ce qui se passe, le conseil qui est généralement donné aux parents, c'est de retirer l'enfant de l'école. Donc, je suis d'accord, il y a une série aussi de démissions.
Alors, Guibert, vous ne niez pas ces chiffres qui ont été publiés. Les auditeurs nous posent la question par courriel, est-ce que oui ou non, en Île-de-France, des Juifs ont dû déménager 50 000 Juifs pour fuir la haine de leur voisinage?
Ça peut arriver. Enfin, les musulmans ne sont
Attendez,
pas du tout dans l'île.
C'est pour pas dire ça peut arriver. C'est un phénomène massif.
Oui, oui, mais enfin,
en France, en 2018,
on ne nie pas un certain nombre de comportements condamnables qui conduisent effectivement. Enfin, aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'élèves, d'enfants juifs, qui sont pas dans les écoles de la République. Et c'est un fait. Et donc, globalement, on n'est pas dans le déni. Je le dis et je le redis. Par contre, je dis, il faut d'abord ne pas généraliser. Il ne faut pas faire d'amalgame et il ne faut pas rentrer dans des comparaisons malsaines entre acte anti-musulman, acte antisémite, vote musulman, vote juif, oui. Parce que ça, c'est le communautarisme que les signataires de ce manifeste combattent depuis des années.
À Lyon, Stéphanie est en ligne. Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Stéphanie.
Oui, mais je vous remercie de prendre mon appel. Je suis une auditrice fidèle et c'est la première fois en des années que je vous appelle. Je vous appelle parce que, en fait, je suis très étonnée de la tournure que prend ce débat. En fait, je suis chrétienne et je me posais la question de savoir comment je réagirais si j'étais interpellée parce que je suis protestante. Hein. Mais imaginons un extrémiste catholique, voilà, qui se met à faire n'importe quoi, qui va s'en prendre à des homosexuels ou à je ne sais qui sur la base de son mode de vie. Et je me posais la question de savoir comment je pourrais moi-même être interpellée sur une responsabilité individuelle qui est lors de ma confession. C'est extrêmement intime, c'est extrêmement personnel, alors qu'on est en France, dans un pays laïque. Et quand je vous écoute, alors je précise que je trouve ça vraiment, il y a un vrai problème d'antisémitisme et vraiment je pense qu'il faut, il faut lutter contre et il faut prendre toutes les mesures, mais je suis un peu étonnée qu'on accule une communauté musulmane qui n'est pas une dans notre pays, qu'on demande à des citoyens de s'engager, de se prononcer, d'agir. Je trouve ça très très bien, mais je me demande si ces débats-là, pour le coup, sont vraiment pas de l'ordre du communautarisme et surtout font pas le jeu des extrémismes. Parce que ce qu'on dit pas quand même, c'est que l'extrémisme islamiste, c'est un projet politique. Ça n'a rien à voir avec le fait d'exercer sa libre conscience, sa croyance. Donc vraiment, je vous le dis, je vous ai écouté avec énormément d'attention et je suis vraiment très heurtée en tant que citoyenne de France et en tant que citoyenne du monde. Je précise que je connais bien Israël, que c'est un pays que j'aime beaucoup. Et je me demande où est la paix dans ces débats. Je l'entends pas beaucoup.
Annette Vieviorca.
Moi, je pense que il faut aussi mettre un peu les choses à plat. C'est-à-dire que on peut pas mettre toutes ces questions-là sous le tapis au nom de ne heurter personne. Parce que la situation, elle est celle d'un terrorisme à l'intérieur du pays et à l'extérieur aussi, et qu'il est quand même nécessaire de faire de comprendre un peu les choses. Je vais donner un exemple de ma génération, qui est celui de Copernic. Le 3 octobre 1980, à Copernic, pour la première fois dans l'histoire de notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale, on a tué des Juifs pour ce qu'ils étaient. Il y a eu des manifestations, plusieurs centaines de milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue. Les francs-maçons en tenue, pour moi, c'est un des souvenirs les plus vifs. Et on a manifesté contre l'extrême droite, comme un seul homme, hein, 200 000 personnes. Pour après se rendre compte, des années après, que ceux qui avaient revendiqué, c'est-à-dire la FAN, ce groupuscule d'extrême droite, n'étaient pas responsables, mais qu'on était sur une logique moyen-orientale. Donc moi, je crois que, quels que soient nos sentiments bons ou mauvais, il est vraiment important d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour moi, l'interrogation, et je n'ai pas de réponse, parce que j'avais de réponse, je ne serais pas ici, je serais en train de faire quelque chose d'autre, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'une frange se revendiquant de l'islam devienne une frange meurtrière ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il n'y a pas de lien ? Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre sur le tapis. Oui. Si on ne discute pas, si on ne comprend pas, c'est bien difficile de, d'agir.
Anne-Marc Gubesch, vice-président du Conseil français du culte musulman.
Je constate quand même qu'après 40 minutes pratiquement de débat, on en est toujours aux mêmes amalgames. On parle d'une frange musulmane de la société française qui devient meurtrière, mais on est dans du délire. Je m'excuse de le dire, mais on est dans du délire. Je rejoins tout à fait l'auditrice qui vient de s'exprimer. D'ailleurs, je note qu'aucun protestant ou responsable du protestantisme de France n'a signé ce manifeste, ce qui est quand même révélateur. Il faut arrêter avec cet amalgame, il faut arrêter avec cette démarche de monter les uns contre les autres. Nous sommes tous des citoyens français, nous portons tous les mêmes valeurs.
Jean-Pierre Chevènement a dit aujourd'hui, ce manifeste, c'est une généralisation abusive qui contribue à créer un climat de guerre civile.
Tout à fait. Et exagérer. Juste pour terminer sur un mot, dans le manifeste, on rappelle ce qu'a dit un ancien Premier ministre, que la France sans les Juifs, ce n'est plus la France. Je souscris totalement à 1000% à ça et j'adhère à ça et je le soutiens. Par contre, tout le reste du manifeste démontre qu'on veut insinuer que la France, avec ses musulmans, ce n'est plus la France. Et ça, pour moi, c'est insupportable
quand même rappeler,
dans cette
puisque
logique.
Notre auditrice Stéphanie nous disait qu'elle était protestante, qu'il fut un temps dans ce pays où on massacrait les protestants. C'était l'époque de la Saint-Barthélemy, au nom du catholicisme. Si je dis cela, c'est pour dire que il n'y a pas, par essence, des religions qui sont assassines, mais qu'il y a des périodes historiques où telle religion, comme les catholiques au moment des croisades qui tuaient les infidèles et qui pogromaient au passage au nom du Christ, comme on a massacré dans ce pays les musulmans. Donc il y a à un moment donné des religions qui sont mus par un fanatisme et qui deviennent des religions meurtrières. On ne peut pas le nier.
On est presque à la fin, on est quasiment à la fin de l'émission. Il y avait pas mal de courriels à propos d'Internet, on nous a écrit. L'antisémitisme se développe aussi grâce à Internet, sur les réseaux sociaux. On se dissimule sous des pseudos et on déverse une haine inouïe. Quand les hébergeurs de ces sites vont enfin réagir ? Quand le législateur va-t-il légiférer ? Il faut fermer ces comptes d'utilisateurs
racistes. Également beaucoup de propos islamo et anti-musulmans qui circulent sur les réseaux sociaux, il faut le rappeler également.
Merci à nos invités Annette Wiewiórka et Anouar Gubesch. C'était le téléphone sonne. À demain soir.